présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Monsieur Mercier, vice-président, Monsieur Chevalier, directeur, Monsieur Harold, directeur, Mademoiselle Judith Blair, directrice, service, réclamation, clientèle. Oui, aussi Mademoiselle Lapin. Lui dit, je suis venu avec mon secrétaire particulier, Monsieur François Ducourt. Judith est furieuse et se dit que François aurait dû lui dire qu'il avait pris des galons. Maurice dit, bon, nous faisons un appel pour des logements sociaux, province comme Lyon. Il nous faut, en plasticorerie, de la tuyauterie, plomberie, des chasses d'eau, poignées de portes, encadrement de portes, sol, et qui pourrait être de qualité sans coûter trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Et la réunion se poursuit. Les dossiers sont relus par la direction. Maurice leur dit ensuite : vos produits semblent de très bonne qualité et les prix en compétition avec les services. Alors, nous allons réfléchir. Ils se lèvent, tous se lèvent. Les mènent à une pièce attenante au bureau. Où il y a des boissons, apéritifs de toutes sortes et des amuse-gueules. Mademoiselle Lapin dit à Julie : quel beau secrétaire ! Un vrai bébé ! Judith avait à François lui dit : félicitations pour ta nomination. Tu aurais pu me le dire, lui dit : je vais te faire la surprise. Marthe, furieuse, voit Judith caresser la joue de son bébé. Il rit. Elle se dit : la parole ! Et elle va me le prendre ! Le président dit à Marthe : votre secrétaire est très bien. Il faudra qu'il vienne à chaque fois ici. Et même, il peut venir seul. Elle ne veut pas refuser. Elle se dit qu'elle va être obligée de faire venir son bébé. Les désirs de Maurice sont des ordres. Elle est en colère et se dit qu'elle n'aurait jamais dû dire à François de venir avec elle. Lorsqu'on a un trésor, on le cache des regards. François est son plus beau bijou et le plus cher. C'est vrai qu'il est le plus cher, parce qu'elle dépense plus pour lui que pour aucun autre. Et toutes ces femmes qu'il dévore des yeux, même cette chose multicolore, Mademoiselle Lapin, et cette Judith. Elle est riche, elle peut me le prendre. Lorsqu'ils sortent du siège, ils lui demandent : qu'est-ce que tu as ? Elle lui fait : rien, un peu fatiguée. Il lui dit : ça s'est bien passé. Il lui fait : tu parles ? Un vrai bordel là-dedans. Il n'y a que des putes. J'aurais mieux fait, c'est de venir avec une femme. Qu'elle est jalouse. Le téléphone sonne dans sa chambre. Il décroche. Allô ? C'est moi, Judith. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Moi aussi. J'aimerais te voir. Tu peux passer ce soir ? Il répond : c'est un peu tard. Il dit : ça n'a pas d'importance. Viens. Tu ne le regretteras pas. Bien. Je viens. Alors à tout de suite. Et elle a raccroché. Il se dit qu'il va sûrement avoir une engueulade. Plus tard, il sonne chez Judith. Elle lui ouvre. Elle est déshabillée en soie blanche et transparent. Elle lui dit : entre. Il entre. Elle ferme la porte. Viens,
Allons au salon.
Il la suit, boudeur.
Et va s'asseoir
dans un fauteuil. Et il demande, tu veux boire quelque chose? Il dit, oui, un jus d'orange.
Elle va le lui chercher.
Revient avec une bouteille et deux verres et fait le service.
Tiens, merci. Puis, s'assoit en face de lui.
Elle lui dit, je ne savais pas que tu étais devenu secrétaire particulier de cette femme. Il lui fait, je vais te faire la surprise, mais ce n'est rien. Je ne fais que de l'accompagner et lui passer les dossiers. Elle lui fait, elle semble t'apprécier et compte sur toi. Il lui fait, ouf, peu de choses. Je trie, je classe. En tout cas, le président t'a remarqué. Et qu'est-ce qu'elle compte faire de toi? J'espère que c'est qu'elle ne te fait pas faire des heures supplémentaires. François lui dit, écoute, ce n'est qu'un travail. Et puis, ce n'est pas de ma faute si j'ai une place. Et que cette place, c'est une patronne qui est à la tête de cette affaire. Je t'ai demandé à toi si tu pouvais me trouver une place. Tu ne m'as rien proposé. Il veut bien que je trouve quelque chose, non?
Elle lui dit, te fâche pas. J'ai fait une enquête sur cette femme. Fais attention. Elle a des choses louches, comme la mort de son mari. Et se comporte d'une façon pas très sérieuse. Et lui dit, la vie privée de ma patronne ne me regarde pas.
Elle lui fait, comme tu voudras. Et lui dit, ne sois pas jalouse. Je suis ton bébé. Je le suis encore, dit.
Et lui fait, oui, bien sûr, la preuve m'a tenue. Viens.
Les jours passent. La Tremblant demande souvent François au siège pour discuter de certaines choses. Ça irrite Marthe, mais elle ne peut qu'obéir. Elle voit que Judith appelle souvent François du siège. Elle est jalouse de cette Judith. Un jour, qu'elle va au siège, elle aussi, dans l'ascenseur, elle entend la lapin parler à une grande blonde, une hôtesse. Elle lui dit, la Judith, elle se les a tous faits. Ils y sont tous passés. Sauf le président et son fils. Son fils, c'est un ange. Mais cette Judith, quelle femme. Moi, je l'aime.
L'hôtesse lui demande, est-ce vrai qu'elle a eu aussi le petit mignon? Tu sais, celui qui vient souvent, le François Ducourt.
Elle dit, oh, celui-là, elle l'a eu depuis longtemps, presque depuis le berceau. Tu parles, dès qu'elle l'a vu, elle l'a embarqué. Ça fait des années que ça dure. Il paraît que la patronne du petit ne sait pas que son petit, c'est une vieille connaissance de cette Judith. Et sans cet amour, elle n'aurait pas eu le contrat. Quelle femme, cette Judith! C'est mieux que les feux de l'amour. Marthe est furieuse.
Lorsqu'elle est dans le bureau de Maurice, elle lui dit,
il y a quelque chose que j'aimerais vous demander, c'est de mettre à la porte cette Judith Lair. »
Maurice, surpris, lui demande « Pourquoi ?»
Elle lui fait « Parce qu'elle ne me plaît pas. »
Il lui dit « 10 ans pour mettre à la porte une personne. »
Elle lui dit « Mais elle peut me nuire. »
« Comment ?»
Elle lui dit gênée « Pour des raisons privées. »
Il lui dit « Moi, mais pour des raisons professionnelles, je ne peux pas me passer d'elle. Ses affaires privées ne me regardent pas. » Elle est furieuse.
Mais le président dit à Judith
« Si vous avez des différends avec la présidente du groupe, Lurel, réglez-les en privé et non dans mon bureau. »
Judith lui dit « Je ne comprends pas. »
Il lui dit « Elle a demandé à vous mettre à la porte. Elle est furieuse contre vous. »
Elle lui demande « Et qu'allez-vous faire ?»«
Je vous garde, bien entendu. » Judith est furieuse.
Judith est très furieuse. Elle dit à François, chez elle, dans son salon, « Elle a eu le culot, c'est de demander ça, à Franc-Blanc.
Méfie-toi d'elle.
Elle te veut,
à elle seule.
Et tu risques, c'est de te nuire à jamais, parce que tu seras sa chose. »
François est furieux, il se dit qu'il doit la quitter. Il décide, c'est de la voir en privé le moins possible. De la quitter petit à petit. Maintenant, qui sait, qui peut être un bon secrétaire, il trouvera bien un autre patron. Mais un homme, pas une femme. Elles sont toutes folles. Donc, il continue son travail, mais lorsqu'elle lui demande d'être près d'elle en privé, il refuse de plus en plus. Il se dit que durant le travail, les petits cadeaux doivent lui suffire. Les petits cadeaux égale se laisser caresser, etc. Elle, elle aime François, veut le garder. Et c'est François qui cherche à s'éloigner d'elle. Alors, pour le garder, elle lui offre des petits cadeaux. Montre, bracelet, en argent, etc., etc. Le félicite sur son travail. Lorsqu'elle l'a, elle cherche à lui donner le plus de plaisir qu'elle peut. Comme elle sait qu'il aime être comme un bébé et qu'elle aime aussi ça, elle le traite comme un bébé. Mais elle voit que ça ne suffit pas. Dès que l'effet de surprise du cadeau est passé, il s'éloigne. Elle se dit que ça ne suffit pas. Il faut que ce beau bébé ait plus envie de la quitter. Alors un soir, il est chez elle au salon, elle lui tend une cigarette faite à la main.
Tiens, lui dit, je ne fume pas. C'est pas du tabac. Essaye, allez. Il hésite. Tu as peur de prendre une bouffée?
Alors elle lui allume la cigarette et la lui donne. Il la prend et en prend une bouffée. Elle lui fait tourner la tête. Ça a un goût étrange.
Il lui dit « Non, merci, c'est dégueulasse. » Et il fait « Essaye encore une fois, tu verras. Ça va te faire du bien. »
Et il essaye. Petit à petit, il s'habitue. Ça lui fait un drôle d'effet. Il a envie de rire. Se sent bien, détendu. Voit des choses un peu troubles, mais c'est pas désagréable. Il a envie de rire. Elle rit aussi. Puis ils font l'amour. Désormais,
ils ont l'habitude de fumer. Lui, petit à petit, il en a besoin. Il pense dans la journée et a hâte de pouvoir fumer. Alors il va chez elle, sans s'en rendre compte, il est devenu accro. Ça lui manque dans la journée, il se sent mal, il a envie de vomir. Et dès qu'il fume, il se détend. Il va automatiquement chez elle, il ne peut faire autrement. Elle est heureuse, elle l'a à lui. Il a une chaîne qui le retient à elle. Dehors de son travail, il ne fait rien. Il va juste chez Marthe. Même Judith, il ne la voit plus, ou presque plus. Elle est furieuse. Mais c'est celle qui ne voit rien. Lui travaille de moins en moins. Mais comme il est avec elle, ça n'a pas d'importance. Comme toujours, après la fumerie, où elle a participé ou fait semblant, ça se termine toujours par un « ça va, ça vient ». Il le fait comme dans un brouillard, comme s'il était avec 100 femmes à la fois. Dans un bouillon de musique enivrante et de couleurs. Il jouit dans un pétale de fleurs. En réalité, même s'il n'a pas joui ou pas assez à cause de la drogue, elle lui fait croire qu'il a été extrait et que c'est qu'il aurait été moins s'il n'avait pas eu de la drogue. Malheureusement, plus le temps passe et plus il en faut et plus il devient furieux et en manque. Il se sent mal, a des vertiges, etc. La cigarette ne lui suffit plus. Il lui faut des choses plus fortes. Alors, elle lui prépare des seringues.
Qu'est-ce que c'est ? Elle lui dit, c'est mieux, tu vas voir.
Et elle le pique. La chose nouvelle est plus forte. Elle lui redonne le plaisir. L'autre s'en était habitué, il ne faisait plus rien. Et il redevient accro et malade entre les piqûres. Petit à petit, ça le rend furieux. Il en fout de plus en plus. Il ne sort plus de chez elle, refuse le soleil, reste allongé dans le noir, dans sa chambre. Il tremble, a mal au ventre, mange peu. Mais lorsqu'il se drogue, il se sent bien. Et peut avoir du plaisir, et lui aussi. Il ne travaille plus, et ne peut plus. Elle est heureuse, il est à elle. Lorsqu'il lui arrive de temps en temps de sortir, très vite, le manque le fait revenir chez elle. Bébé est à elle. Judith le voit de moins en moins, et le siège aussi. Elle apprend qu'il ne va plus à son travail. Elle fait une enquête et apprend par les domestiques qu'il vit chez Marthe et se drogue, que plus personne ne le voit. Judith est furieuse. Elle séquestre son François, cette vieille. Elle le dégrade de plus en plus. Elle va le payer. Elle se dit qu'elle va la ruiner. Mais elle ne peut pas. Parce qu'elle fait partie du groupe Franc Blanc et qu'elle ne peut qu'une personne qui fait partie du groupe ne peut être ruinée parce que ça ferait mauvais effet et qu'une personne qui fait partie du groupe ne peut avoir des difficultés. Un groupe qui entre dans le groupe
ne peut être en faillite. Autrement, ça démontrerait que la Franc Blanc s'allie avec n'importe qui. Et puis l'on dit que rentrer à la Franc Blanc, c'est comme entrer dans une famille. Et que chacun est aidé. Et ceci pour la vie. Donc, puisqu'elle ne peut pas la mettre en faillite, elle va l'humilier. Elle ne peut pas l'attaquer pour le mort de son mari. Ce ne serait pas bien pour le groupe. Mais un jour, Harold convoque Marthe au siège. J'ai à vous proposer quelque chose de très intéressant. Je vous donne rendez-vous demain à 15h.
Bien, j'y serai.
Harold la convoque parce que Monsieur Mercier est malade et le président est au Japon pour affaires. Lorsqu'elle arrive au siège, on lui dit à l'accueil que comme la discussion risque de durer longtemps, il serait préférable c'est de mettre la voiture au parking au sous-sol du siège. Un garde la guide. Puis on l'amène chez Harold. Une fois qu'il a fait asseoir, il lui dit
« Je vous remercie d'être venu. Monsieur Mercier étant malade, Monsieur Franc-Blanc étant parti pour le Japon, ils m'ont demandé c'est de vous recevoir et de vous proposer une affaire. » Elle lui fait « Je vous écoute.
Votre secrétaire est absent. »
Il fait « Il est en congé. GRT. GT. »
Harold, un faible pour François, comme tous les gens du groupe. Et puis Harold aime beaucoup les jeunes hommes. Ça fait partie de son charme et personne ne lui en veut. Harold, c'est Harold, comme Judith, c'est Judith, etc. Il lui dit, voilà, notre groupe est une entreprise à racheter, une vieille entreprise qui fait de la surveillance. Nous tenons à la prendre pour que une personne ne la prenne. La surveillance, c'est dangereux. Donc, nous avons pensé que vous pourriez la racheter, vous, personnellement. C'est une bonne affaire pour vous. Et il demande, pourquoi me proposer cette affaire? Il lui dit,
parce que je ne veux pas que le groupe la prenne directement, à cause de son historique. Il faut la restructurer, démanteler et ne garder que les bons postes. Pour ce genre de travail, c'est mieux qu'une filiale le fasse. Elle cause de notre image de marque. Et puis, moins de pub, c'est plus discret. Pour les licenciements, c'est mieux. Et puis le président de cette entreprise est une femme. Alors, entre femmes.
Alors, vous acceptez?
Elle lui dit, oui, je veux bien rendre ce service au groupe.
Il lui fait, bien. Vous allez voir l'entreprise, son siège est à Lyon. Après, nous discuterons contrat. Attention, top secret à cause des syndicats.
Le président de l'entreprise a été mis au courant et pour préparer la fusion avec vous, mais discrètement. Elle est prête à vous donner le relais et comme vous faites partie de notre groupe et comme l'entreprise fera partie du vôtre, elle sera à nous.
Bien, mais je vous apporte l'entreprise dans le groupe, mais qu'est-ce que j'ai comme récompense?
Il lui dit, vous aurez un salaire comme PDG de cette entreprise de 80 000.
Mais le groupe Franc-Blanc doit
avoir 60% de part. Et vous, 40. Si vous arrive quelque chose, décédé ou incapacité de diriger, votre héritier ou vos héritiers prendront la suite, s'ils en sont capables. Autrement, la Franc-Blanc choisira un PDG. Nous avons mis aussi une clause au contrat. C'est qu'en plus de cette entreprise, si vous arrivez quelque chose que vous n'avez pas d'héritier, eh bien, tout ira à la Franc-Blanc. Mais une fois morte, et puis, vous êtes jeune, très jeune, et puis vous pouvez 100 fois avoir un héritier. 80 000 de plus par mois, plus 40% de bénéfices en plus, pour la nouvelle entreprise, c'est pas mal. Réfléchir se dit, c'est intéressant. Et puis, je peux mettre comme héritier François. Et puis, qui sait, avoir un fils de lui. Oui. Et puis, ce serait très bien. Je vais être riche. Oui, j'accepte, il dit. J'avais prévu les contrats. Venez signer. Et elle signe. Et tous ses biens seront plus tard à la Franc-Blanc. Ceci pour une affaire dont elle ne sait même pas ce que c'est ni ce qu'elle vaut. L'entreprise ne vaut peut-être rien. Elle sort du bureau satisfaite, retourne sa voiture au parking du siège et roule. Elle décide de rentrer chez elle pour préparer ses valises et partir de suite pour Lyon. Elle va prévenir François, lui donner des choses à faire et à manger. Le pauvre, il va rester seul plusieurs jours. Quitte Paris et suit la route. La voiture file de plus en plus vite. La voiture roule de plus en plus vite. Elle n'arrive pas à la freiner. Les freins ne répondent pas. Apeurés, effrayés. Les voitures la dépassent. Elle ne sait plus. Tout d'un coup, elle voit de la fumée. Dans son bureau, téléphone à Harold. Allô, Harold? La chose s'est bien passée. Pendant qu'elle était chez toi, on a trafiqué la voiture. Et voilà. Elle est morte. Tous ses biens, même les privés, iront à la Franc-Blanc. Parce qu'elle n'a pas d'héritier. Et même si elle en avait, puisque tous les membres du groupe, une fois décédés, leurs biens vont au groupe Franc-Blanc. Voilà, la chose est faite. François reste dans les vapes chez Marthe. Il ne sait pas pourquoi, il se rend compte pas du temps qui passe. Les domestiques ne viennent plus le voir. Les jours passent. Les jours passent, et tout d'un coup, ils voient arriver des camions, des voitures, la police, qui entourent la maison.
Le périphérique a été miné. Dégagez toutes les rues. Rendez-vous dans la station de métro la plus proche.
Ils se cachent dans un coin de la maison, dans une chambre.
Toute personne se livrant au pillage peut être abattue à vue. Je répète.
Des hommes qui ouvrent la maison.
Toutes les voies d'accès au quartier ont été fermées.
Qui courent.
Le périphérique a été miné.
Qui ouvre les portes.
Rendez-vous dans la station de métro la plus proche. Il est fini. Dégagez la rue. Toute personne se livrant au pillage peut être abattue à vue. Je répète.
François tremble. Il a peur. Il est apeuré. Des hommes grands, forts, peuvent à lui demander. Dites-vous, ne répond pas, comme une deux. Nous sommes venus. Nous sommes des membres du groupe Franc-Blanc. Nous voulons prendre la propriété de Madame Laurel, décédée. Vous êtes priés de quitter le lieu. Le groupe Franc-Blanc a décidé.
Toutes les voies d'accès au quartier ont été fermées.
De prendre la propriété.
Dégagez toutes les rues.
De détruire cette maison. Mais avant, je vais en faire l'inventaire. Allez, tout doit être vendu. Tous les occupants doivent quitter le lieu. François, effondré, ne comprend rien. Il doit quitter les lieux et quitte la maison.
Le périphérique a été miné. Dégagez toutes les rues. Rendez-vous dans la station de métro la plus proche et restez-y. Je le mets. Dégagez la rue. Toute personne se livrant au pillage peut être abattue à vue. Qui ont été fermés. Le périphérique a été miné. Dégagez toutes les rues. Rendez-vous dans la station de métro la plus proche et restez-y. Je le mets. Dégagez la rue. Toute personne se livrant au pillage peut être abattue à vue.
Il quitte les lieux et s'éloigne. Il se dit que sa Marthe est morte et lui est seul, sans défense, sans drogue. Il s'éloigne et disparaît. Le lendemain, Judith, dans son bureau, lit le rapport que lui a donné Harold, qui avait un jeune garçon dans la maison. Elle dit, « Monsieur le tête, François, où est-il ? » Il lui dit, « Le jeune homme,
On la fait partir. Elle lui dit, mais vous avez oublié qu'il habitait chez elle. C'est François. Où est-il allé?
Je sais pas.
Il faut chercher.
Harold, qui aime bien François, fait les recherches. Mais il a disparu.
François est retourné à Paris en faisant du stop. Il n'a plus rien que son physique. Et est bien malade. Que va-t-il faire? Il n'ose aller chez Judith parce qu'il s'est dit que c'est la Franc-Blanc qui l'a mis à la rue. Il fait la manche. Pour manger un peu. Le soir, il dort dans des corps en faisant attention de ne pas se faire attaquer par des hommes ou des rats. En faisant la manche, il demande si on ne peut pas l'héberger une nuit. Les femmes, un peu mûres, et même des hommes, accepte. Se prostitue pour pas cher. En cachette, il en vole des petites choses. Et c'est souvent pour manger. Ce qui est dur, c'est se trouver la drogue. Et puis elle coûte cher. Mais il arrive à s'en faire offrir parce que les gens le trouvent mignon. Il aimerait se trouver une femme qui puisse s'occuper de lui. Malgré sa maigreur, ses vêtements déchirés et sans, il est resté très beau et séduisant. Même cette misère, cette maigreur le rend encore plus désirable. On a encore plus envie de s'occuper de lui. Mais comme il est très jeune, on n'ose pas. La plupart du temps, ce sont des gestes fugitifs. Dans des coins d'allée, pour un morceau de pain. Il y a encore sa carte, mais la drogue coûte très cher. La drogue coûte très cher.
C'est pour moi, hein, qu'il y a du monde.
Oui. Ça t'embête?
Non. C'est du quartier.
Je suis de Verbier.
Pas loin, Verbier.
Non. C'est tout près.
Il se pique dans les caves avec des drogués comme lui qui traînent. Mais lui est plus jeune. Il est resté beau, un ange au milieu des rats.
Des fois, il y a de la bagarre dans les corps. On se réunit, on se cache, on se prend des choses, on se donne des coups. Lui vit au milieu des SDF sans y vivre vraiment. Il est plutôt seul. Les manches dans les rues populaires sans s'en rendre compte, et puis comme il a de moins en moins les moyens pour se payer la drogue, il a faim, froid, petit à petit se déshabitue à la drogue. Bien entendu, il y a des douleurs, des crampes d'estomac, etc. Mais ça diminue. C'est long, mais ça diminue, ça baisse. Les gens dans la rue, qui le voient faire la manche, ont pitié de lui. Et lui donne un peu ce qu'ils peuvent. Des maigres, très maigres. Ça le rend plus jeune encore. Il continue à se prostituer, mais ça va pas bien loin. Des fois, il trouve un livre dans une poubelle, le prend. Et va le lire un peu plus loin. Il se dit que quoi qu'il fasse, il retourne tout le temps à son point de départ. Comme lorsqu'il était enfant à Lyon. Les jours passent. Malgré tout, il reprend des forces. La vie dure, la difficulté à trouver à manger l'a rendu plus fort, moralement et physiquement. Son corps s'est habitué à moins manger, aux intempéries du temps. La peur de se faire attaquer va donner des réflexes plus rapide. Ses sens se sont affinés. Il est toujours là-bas, aux aguets et prêt à bondir. Un jour, une femme le voit. Elle est grande, mince, cheveux châtains, au regard triste, porte un vieux manteau rouge. Lui demande, vous avez une petite pièce pour moi? Elle fait, vous vivez seul? Oui, vous pouvez m'héberger pour la nuit? Elle le regarde bien et lui dit, oui, viens. Il la suit. Elle lui demande, vous venez d'où? Il lui dit, de Lyon. Elle lui fait, je comprends. Cette ville horrible. Vous avez bien fait de la quitter. Moi, j'habite toujours le même quartier, Montparnasse. Mais elle va le faire rentrer. entrait dans une allée d'un vieil immeuble sans âge.
Là-bas.
Si vous cassez la figure dans les escaliers, un soir en rentrant chez vous.
Nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.